un podcast France Culture.
Les pieds sur terre, Sonia Kronlund.
C'est une profession dont on parle beaucoup, mais dont on dit peu qu'elle enregistre un nombre record de départs, démissions brutales ou renoncements progressifs. Ainsi, au sein de la police et de la gendarmerie, les départs ont atteint des sommets en 2021, bientôt battus par les chiffres de 2022, annonce un rapport de la Cour des comptes cité par Le Monde. L'institution s'inquiète de ce phénomène de fond installé depuis la fin de la crise sanitaire. Certes, il y a les départs à la retraite et de nombreux fonctionnaires qui se tournent vers la police municipale, plus attractive si on peut dire. Certes, il y a des recrutements, surtout dans la police, qui compensent en partie les pertes. Mais le besoin massif d'effectifs conduit aussi à dégrader la qualité des recrutements, comme l'indique la hausse considérable du taux d'admission au concours de gardien de la paix, qui est passé de 2% en 2014 à 18% en 2020, toujours selon le même quotidien. Avec sa façon de parler euphémistique, la Cour des comptes insiste donc sur la nécessaire amélioration des conditions de travail des personnels et sur la gestion dynamique des ressources humaines. Tout de suite dans les pieds sur terre, voici deux policiers qui racontent en d'autres mots ce que peut être parfois la perception dynamique des ressources humaines dans la police nationale par Olivia Muller.
Je m'appelle Fabien Billerand, j'ai 38 ans, je suis originaire de Carcassonne dans le sud de la France. Et j'ai exercé pendant 14 ans dans la police, dans un premier temps pendant 8 ans en commissariat à Colombes dans le 92, pour ensuite évoluer vers la brigade des stupéfiants de Paris. C'était pour une raison bien particulière, c'est que des amis, des proches sont tombés dans la consommation problématique de drogue, voire même dans le deal, y compris jusqu'au trafic international. Et disons qu'en tant qu'ami, je n'ai eu aucune influence. Et à partir du moment où j'ai décidé naïvement de rentrer dans la police, c'était pour interpeller les gros dealers, en partant du principe que si je coupais le robinet des dealers, mes amis ne pourraient plus se procurer de drogue et donc n'auraient plus de problème. Mon engagement dans la police, à partir du moment où j'ai passé le concours, c'était dans un objectif très précis, la brigade des stupes du 36 Quai des Orfèvres à Paris. Toutes premières instances, c'était à l'école de police. Une espèce de cérémonie sur la place d'armes où il fallait déjà rester au garde à vous en plein soleil. Donc moi j'avais pas l'habitude, au bout de deux minutes je tombais dans les pommes. Donc ça avait bien commencé, mais je me suis dit voilà, ça va durer un an et ensuite ça va être différent. Et ça a été complètement différent effectivement, puisque dès mon premier jour, c'était donc à Colombes, ma première mission de police secours, c'était pour un jeune homme qui avait pris une balle dans la tête. Tout de suite j'ai été mis dans le bain de ce que je voulais faire, à savoir lutter contre tout ce qui pouvait avoir de violent lié au trafic. Et là où j'ai commencé à me poser des questions véritablement, c'est par la suite, quand j'ai évolué vers les services d'enquête, où là je me rendais compte qu'on nous demandait un volume de travail qui était démesuré par rapport à notre capacité. Mais aussi, le racisme dans la police, ça m'avait choqué de me dire, mais comment on peut tenir des propos qui sont en fait délictueux, comme les bicots, les bougnous, les négros. J'en ai appris beaucoup en fait dans la police que je ne connaissais pas avant. Ça fait partie, je dirais, de la sociabilisation policière. Surtout quand on commence à se retrouver un peu en groupe, où ce qui va être valorisé, c'est celui qui va se montrer le plus agressif ou le plus violent. Et tout ça, rajouté à des ordres qui paraissaient pas adaptés. Moi, quand je suis arrivé en commissariat là-bas, dès les premiers jours, on m'a dit « Moi, je préfère que tu m'interpelles 10 consommateurs plutôt qu'un dealer ». Et ça, c'était le discours de tous mes commissaires que j'ai eu au commissariat. J'étais particulièrement choqué et déçu de ce genre de propos. Mais je me disais « Bon, après tout, je suis encore en commissariat, donc... » Je mettais de côté un petit peu toutes ces frustrations en me disant que ça irait mieux plus tard, ça irait mieux plus tard, ça irait mieux plus tard. 2016, c'est vraiment un point de bascule avec les policiers en colère. Il y a les événements de Villeray-Châtillon, plusieurs policiers gravement brûlés qui déclenchent spontanément la colère des policiers, donc des manifestations dans la rue. Et très vite, c'est pas juste Villeray-Châtillon en fait qui est présent dans les revendications, c'est ras-le-bol des conditions de travail pourries, exécrables dans beaucoup de commissariats, un ras-le-bol de la politique du chiffre. Et c'est à partir de là, véritablement, que j'ai commencé à réfléchir et à me poser beaucoup de questions. Donc je me suis dit, voilà, j'ai pris un drapeau tricolore bleu-blanc-rouge, j'ai écrit « policiers en colère » dessus. et je l'ai accroché aux grilles du commissariat, en étant parfaitement conscient que ça allait être très mal vu de ma hiérarchie, mais qu'au moins, ils allaient me convoquer et qu'on allait pouvoir discuter. Quelques heures plus tard, je me suis retrouvé dans le bureau du commissaire qui n'a pas du tout apprécié qu'on remette en question sa propre autorité. Et derrière, j'ai été harcelé moralement pendant plus d'un an. J'avais une surcharge de travail supplémentaire. On me refusait des jours de congé, même quand j'avais travaillé 15 jours d'affilée, que j'étais épuisé. On m'a désarmé parce que ça permettait tout simplement de l'imaginaire de mes collègues de dire « Oh là là, il a pas son arme, ça veut dire qu'il est suicidaire, ça veut dire qu'il a un problème. » Donc ça m'a isolé, je me suis retrouvé seul. Avec en plus une pression hiérarchique qui était telle que les gens avaient peur de me parler. Ou avaient peur de s'afficher avec moi dans la cour, dans la salle de pause, etc. pour pas qu'ils puissent leur arriver les mêmes choses. Mais ce qui m'a le plus profondément touché, c'est qu'ils me refusaient mes stages à la brigade des stupes. Donc il a fallu que je trouve d'autres biais pour pouvoir y accéder. Mais en tout cas, j'avais toujours cet objectif et cet idéal qui m'aidait aussi à tenir face à l'adversité et de pas me laisser abattre. Je fais directement la démarche, en tout cas, de solliciter la brigade des stupes pour dire « Voilà, j'ai un problème hiérarchique qui me bloque pour venir vous voir. Je suis très motivé pour venir intégrer votre service. Qu'est-ce qu'il faut faire? Dites-moi tout. » Et donc ça s'est fait par cooptation, c'est-à-dire que plusieurs personnes de la brigade des stupes qui ont été amenées à me connaître ont dit « Bon, lui, il vaut le coup, on va le recruter. » J'intègre la brigade des stupes donc en 2017, où là, je suis absolument ravi parce que c'est à la fois un soulagement de quitter Colombes avec toutes les péripéties des mois précédents et surtout un rêve qui se concrétise, quoi. J'avais des paillettes dans les yeux tous les matins, je montais les escaliers en courant, etc. J'avais une heure d'avance, je repartais une heure après. Enfin, je veux dire, voilà, j'étais enfin dans l'endroit où je voulais être. J'adorais notamment tout ce qui était discussion autour des stratégies d'enquête pour savoir comment on allait mettre en place les surveillances, comment on allait trouver les moyens de récolter les preuves. Et ça, c'était absolument passionnant. J'imaginais parfaitement faire beaucoup d'heures, être très adaptable par rapport aux horaires des dealers notamment, puisque eux ne font pas du 9h-18h. Donc tout ça, je me l'étais très bien imaginé. Par contre, ce que j'avais pas imaginé, c'est qu'à la brigade des stupes, on faisait aussi la politique du chiffre. Le plus gros des affaires qui nous sont ramenées, c'est ce qu'on appelle les bouletteux. Les personnes qui ingèrent de la cocaïne dans leur corps pour prendre l'avion et arriver à Paris donc avec la cocaïne qui est importée directement d'Amérique du Sud. Donc on se contente de récupérer les petites mains du trafic et très peu d'attaques, je dirais, frontales aux trafiquants. Et en fait, ça fait du chiffre. C'est-à-dire que ça peut très vite chiffrer en termes de saisie de cocaïne. Et surtout, une mule, c'est une affaire élucidée, une garde à vue, c'est toujours la même logique. La deuxième chose qui me heurte aussi à la brigade des stupes, je me rends compte très vite qu'en fait, il y a un racisme ambiant qui me paraît délirant. Et en plus, il y avait une partie enrichissement personnel pour certains policiers. Parce que j'ai très vite compris que dans les logiques d'enquête, on ciblait des dealers qui potentiellement avaient beaucoup d'argent. Parce qu'il y avait un potentiel de pouvoir détourner de l'argent sur les perquisitions ou sur les saisies. Ce qui m'est arrivé en fait très rapidement, c'est que dès la première affaire à la brigade des stupes, à la fin de l'affaire, le chef de groupe il me tend une enveloppe avec, je crois, 150 euros à l'intérieur et tout. Et en me posant la question, Fabien, est-ce qu'on peut te faire confiance? Sous-entendu, est-ce que tu vas prendre l'enveloppe et ne rien dire? Ou est-ce que tu es opposé à ce genre de pratique? Mais dans ce cas-là, au revoir, quoi, t'as rien à faire dans le groupe, quoi. C'est un piège en fait. Si on n'accepte pas cette enveloppe, on est mis à l'écart aussi. Là, en l'occurrence, moi, ça a été à chaque fois des 150 ou 200 euros en fin d'affaires. Mais ça pouvait être beaucoup plus. En tout cas, il y a une affaire où il y a une équipe qui devait interpeller un dealer qui a pris la fuite de son appartement par les toits. Et donc, les policiers se sont retrouvés seuls dans son appartement. Et là, dans l'armoire de sa chambre, il y avait une cinquantaine de milliers d'euros qui n'a jamais été déclaré dans le cadre de l'enquête. C'est-à-dire que les policiers l'ont récupéré, se sont répartis entre deux et n'ont jamais parlé de cette somme d'argent dans la procédure. Je comprenais que la brigade des stupes, c'était pas l'idéal en fait que j'avais choisi. Et disons que voilà, je me posais beaucoup de questions, mais j'osais pas encore prendre la parole parce que j'étais encore échaudé par l'expérience Colombes où je m'étais retrouvé mis à l'écart. Ça avait été particulièrement violent pour moi. Et ça voulait dire aussi trahir mes collègues, les dénoncer, les balancer, etc. Et je pense qu'à ce moment-là, j'étais pas encore prêt à ça. Le coup fatal qui a achevé de me faire réaliser que là, je m'étais trompé de voie, en fait, c'est que je me suis rendu compte que plusieurs fois d'affilée, on identifiait des potentiels dealers qui voilà, étaient capables de brasser 100 kilos, 200 kilos de cocaïne, enfin vraiment des très gros sur la plateforme parisienne. Quand on les passait officiels, on disait, hop, vous les touchez pas, c'est des informateurs de l'office des stupes. Moi, dans ma logique d'enquêteur, avoir un informateur pour interpeller le dealer au-dessus, c'est logique. Par contre, d'avoir le principal dealer et d'interpeller ses clients, là, pour moi, on est dans un détournement de la pratique. Ça arrive que les plus gros dealers parisiens, en fait, soient protégés par l'office des stupes. Ils me disent, c'est juste pas possible, en fait. Donc là, j'ai été particulièrement déçu et désabusé. Et de là, j'ai commencé à être capable, entre guillemets, de prendre un petit peu la parole. C'est-à-dire que dans un premier temps, j'ai commencé par faire un faux compte Twitter sous pseudo où tous les soirs à 20h, je faisais juste que retranscrire les propos de mes collègues à la Brigade des Stupes, qui étaient des propos racistes, sexistes, absolument abominables. Et c'est là où, forcément, l'acte manqué par excellence, j'ai oublié d'éteindre mon ordinateur au boulot après une permanence et mon chef est tombé dessus. Donc, on est précisément le 16 juin 2020. Ce jour-là, je comprends que ma carrière aux stupes est finie. Et le soir, quand je rentre chez moi, ma copine me quitte. Donc, le même jour, tout s'écroule. Mais vraiment, tout s'écroule. La boucle infernale s'est mise en place à ce moment-là où je souffrais tellement de tout ça que la seule solution que j'envisageais, c'était de mettre fin à mes jours. Et je me suis dit, symboliquement, tout a commencé à Colombes par le harcèlement de ma hiérarchie à l'époque. Donc, si je dois le faire, je vais le faire devant le commissariat. Je prends ma voiture, je me gare devant le commissariat. J'étais vraiment déterminé à aller au bout de l'action. Et le temps d'attraper mon arme, je l'ai mis dans la bouche et j'étais forcément en sanglots à ce moment-là. Et sans que je comprenne comment ou pourquoi, y a l'alarme de la voiture qui s'allumait d'un coup et qui m'a complètement réveillé puisque je savais pas qu'il y avait l'alarme sur cette voiture. Et j'étais tellement surpris que l'alarme sonne que... Putain, qu'est-ce que t'es con et tout. J'ai jeté mon arme dans la voiture tout de suite très loin. Et à partir de là, forcément, ça a été un peu difficile à assumer. J'ai roulé un peu comme ça, sans trop savoir où aller dans un premier temps pour évacuer, souffler. J'ai trouvé un hôtel, je me suis mis dans cette chambre d'hôtel et là, pour le coup, je me suis écroulé de fatigue. Et après tout ça, j'ai dormi. Et le lendemain, je me pointe pas au boulot. Et forcément, mes collègues se sont inquiétés parce que la veille, mon chef avait quand même vu que j'avais pris un coup au moral après la discussion. Et ils m'ont finalement retrouvé dans la chambre d'hôtel, ultra soulagé parce qu'ils s'étaient imaginé que j'avais commis le pire.
Comment vous vous trouvez ?
Avec un IMSI catcher, c'est-à-dire un boîtier électronique qui permet de capter en fait toutes les communications, donc une technique d'enquête spéciale pour savoir où j'étais localisé. Donc c'est comme ça qu'ils m'ont retrouvé. Et de là, ils m'ont dit, qu'est-ce que tu veux faire, qu'est-ce que tu envisages et tout. J'ai dit, amenez-moi à la clinique de Valdracy. Je sais que là-bas, je vais être pris en charge parce qu'il y a un programme spécifique pour les policiers. Ça a été difficile. Et voilà, petit à petit, la vie reprend le dessus, fort heureusement. Et la principale décision qui m'a permis de reprendre le dessus, c'est en fait quand j'ai dit, je veux quitter la police. À partir du moment où j'ai accepté que je m'étais trompé d'idéal, que mes valeurs ne correspondaient pas avec ce que j'avais vécu, ça a été difficile à prendre comme décision parce que je suis passionné de police, j'ai été passionné par ce que j'ai fait, je le suis toujours, mais une fois que j'ai pris la décision et que je l'ai formalisée, c'est comme si je venais d'enlever les menottes en fait.
Je m'appelle Jean-Marc, je suis marié, j'ai 3 enfants. Je suis rentré dans la police en 1991, après mon service militaire. J'ai fait une vingtaine d'années en CRS, puis après j'ai été affecté en commissariat de police. J'ai commencé à la sortie de l'école en CRS. Pour moi c'était une chance, puisque c'était quand même un corps qui s'engageait sur le terrain, il y avait toute cette camaraderie, c'était hiérarchisé et respectueux de la hiérarchie, et puis il y avait ce côté aussi un petit peu bourlingueur, on pouvait partir du jour au lendemain, on recevait un coup de téléphone, dans une heure t'es à la compagnie, on part en Corse, j'ai beaucoup aimé. Donc j'ai quitté les CRS, j'avais fait un choix, c'était celui de me rapprocher de ma famille et j'ai pensé que je pourrais m'investir d'une autre manière dans un commissariat de police. Et donc j'ai été affecté en brigade de roulement. J'étais adjoint d'une brigade et très rapidement, quand je suis arrivé, la hiérarchie s'est un petit peu servie de moi en m'affectant par la suite en tant que chef de brigade. On pourrait penser que je suis reconnu par mes compétences, c'est ce que j'ai cru. Sauf que on m'a envoyé au carton. Très rapidement, les effectifs se liguent tous contre moi. Des effectifs qui me répondaient « Ici, c'est le chef qui s'adapte au moule et pas le moule qui s'adapte au chef ». Il ne se présentait pas, par exemple, le matin à l'appel, donc je pouvais pas savoir qui était présent ou pas présent. C'est des fonctionnaires qui se déguisent avec des perruques, etc. Donc, il y a quand même un très gros problème comportemental. Il y a eu, une fois, deux collègues féminines qui interviennent dans une grande surface et qui vont interpeller un voleur. Sur les ondes, elles demandent un renfort. Et personne ne se bouge. Et il y avait une fonctionnaire qui est en train de goûter. Elle est en train de manger un yaourt. Et je lui dis, mais il faut tout de suite aller à tel endroit, porter assistance aux collègues et tout ça. Là, je suis en train de goûter, je finis mon yaourt. Et là, je me suis dit, non, c'est trop, quoi. Donc, ça a été le début du calvaire. Après, lorsque vous tapez un petit peu plus du poing sur la table, là, ça a été des insultes. Tu fais ton petit chef de merde. Vous devez vous plier parce que vous êtes tout seul. Chaque aller au commissariat devenait de plus en plus difficile. Au début, c'était juste des petits maux de ventre, et puis des crampes. Vous dormez plus, vous n'arrivez plus à vous alimenter correctement. Moi, j'ai nettement senti une dégradation de mon état de santé, qui d'ailleurs m'a conduit à la somatisation de la maladie de Ménière. Vous avez tous les symptômes de l'ébriété. Vous perdez l'équilibre, c'est très inconfortable. Donc un jour au commissariat, mais je suis tombé dans les vestiaires, par terre, parce que j'avais été pris de nausées. Je suis quelqu'un qui est assez mal au dur, j'encaisse quand même beaucoup de choses, mais sauf qu'à un moment donné, c'est votre corps qui lâche, quoi. J'ai été en arrêt, et après, bon, j'ai été placardisé sur différents postes, désarmé, enfin, etc. Donc je suis 10 mois au service des fourrières, ça se passe très bien. Je fais un peu tout et n'importe quoi. Par exemple, comme j'ai pas de poste de travail, dans la cour du commissariat, j'avais remarqué qu'il y avait un monticule de vélos. Eh bien, je me suis penché dessus pour pouvoir les restituer à leur propriétaire. Et j'ai nettoyé la cour du commissariat. Au bout de cette période d'une dizaine de mois, je suis convoqué par mon commissaire de police. Il me fait l'éloge du travail que j'ai fourni dans mon service, et puis il me propose d'intégrer un groupe d'intervention. Ça s'appelait Compagnie de sécurisation et d'intervention. Et donc, vous pensez bien que c'était une petite étoile dans le coin de mon œil qui s'est mise à briller, et j'ai dit oui. Mais malheureusement, au quotidien, les gens avec qui je travaillais, encore une fois, avaient un fonctionnement qui leur était propre. Et j'ai très rapidement dû faire face à des violences illégitimes sur une personne qui était menottée. On a été appelé en renfort de la BAC sur des gens qui étaient dans un pavillon en train de cambrioler. On arrive sur place, il y en a un qui essaie de s'échapper, il est interpellé par un personnel de la BAC. Mais il y en a toujours un qui est dans la nature. On le cherche, on cherche partout. On ne le trouve pas. Et d'un seul coup, j'ai mon chef de groupe qui dit « Il est là !» Il était juste à côté de nous. Il s'était accroupi, mais vraiment le jeu du chat et de la souris, quoi. Et puis, à ce moment-là, le jeune a commencé à recevoir des coups de pied au niveau du bassin. Mon chef de groupe l'a traîné sur plusieurs mètres à plat ventre pendant que l'autre continuait à lui asséner des coups de pied dans le bassin. Il y a eu, j'en sais rien, peut-être 8-10 mètres traîné comme ça sur le ventre. Mon chef de groupe l'a lâché et l'a frappé au visage pendant qu'il était menotté, etc. Là, j'ai ressenti un fort sentiment d'impuissance parce que je dois avouer que je savais pas quoi faire. Est-ce que je l'écarte? Est-ce que c'est moi qui vais être en confrontation? Le jeune homme, il a été passé à tabac, quoi. Mais sous les yeux de 10 policiers présents. Il avait, je crois, autour des 14 ans. Et la seule chose que j'ai réussi à faire, c'est tourner la tête. et j'ai vu sur ma droite le jeune homme qui avait été interpellé et qui regardait son copain en train de se faire tabasser. Et c'était dur, quoi, parce que vous vous dites « Ok, je dois protéger les biens des personnes, mais ça reste des gamins, quoi. Je veux dire, nous, on est des adultes. » Et le policier, dans sa procédure, a justifié, comme d'habitude, qu'il avait utilisé la force strictement nécessaire, ce qui était complètement faux. J'ai fini par prendre la décision d'aller voir mon commandant, qui, lorsque j'ai commencé à aborder le cas de mon chef de groupe, m'a dit « Monsieur, restez à votre place et arrêtez de faire des vagues. » Donc ça, c'était aux alentours de mi-janvier 2018. Et à la suite de ça, on est à nouveau appelé sur un vol par effraction. Et on arrive donc sur la commune en question. On aperçoit des collègues et il y a une collègue qui descend une rue et qui court sur un trottoir derrière un gamin. Donc nous, avec notre véhicule, ben on descend, on s'approche et je dis à la personne qui est derrière, ouvre la porte, prépare-toi à sauter pour interpeller et aider la collègue féminine. Et là, le véhicule qu'on avait vu en haut passe à toute allure, sans gyro, sans deux tons. Il nous double et se met en chicane. Ça interrompt la course du jeune homme qui traverse la route juste devant nous et se retrouve de mon côté. Je m'éjecte tout de suite du véhicule et je commence à courir derrière lui. Du véhicule qui s'était mis en travers, un fonctionnaire était rapidement aussi parti à la poursuite du jeune homme, mais il tombe. Moi, je passe le fonctionnaire. J'arrive près du gamin, je l'attrape, je le mets à terre pour procéder à la palpation et au menottage. Et là, je suis violemment percuté par l'arrière et par le côté, et je tombe à terre. Et là, des coups partent. Je ne sais pas qui c'est. Et assez rapidement, j'arrive à me relever. Et là, je me rends compte que c'est un fonctionnaire de police. Mais c'est un fonctionnaire de police qui m'avait déjà créé des soucis quand j'étais dans la fameuse brigade de roulement et qui est très copain avec toute la meute. Je le saisis du haut de sa tenue, au niveau du sternum, et je l'écarte. Et je lui dis « Tu fais quoi là? On n'intervient pas comme ça. » J'ai une chance inouïe dans tout ce qui est arrivé, c'est que malgré le fait que tous les fonctionnaires de police vont mentir dans leur déclaration par la suite, le mineur qui était au sol avait la tête tournée du bon côté. Lui a pu voir que le fonctionnaire de police s'était relevé, qu'il était venu me heurter violemment, qu'on avait pris des coups, et il a même pu réitérer les propos « on ne fait pas ça, on n'intervient pas comme ça ». J'ai quand même été le seul fonctionnaire à avoir été relevé de mes fonctions. Et retour, case départ, aux fourrières. Donc il y a une enquête interne qui a été menée par un commandant de la sûreté départementale. Et il a conclu que j'avais été victime de violences illégitimes de la part du fonctionnaire en question. Suite à ces premières conclusions, le parquet a été saisi. Et c'est l'IGPN qui a été chargé de reprendre le dossier et d'enquêter. Moi, quand je me suis dit... enquête IGPN, je me suis dit « Ah, pff, ok, ça va être carré, j'ai confiance, j'ai confiance !» Et là, contre-pied complet des premières conclusions, puisque en gros, l'IGPN conclut que on peut me poursuivre pour dénonciation mensongère, calomnieuse, et au final, je me retrouve même accusé de violence volontaire contre le policier qui m'a agressé, ainsi que le gamin. Et là, je suis poursuivi en correctionnel. Et là, je peux vous assurer que c'est le coup de massue. Je comprends pas. Je me dis, c'est pas possible. J'ai l'impression d'être face à une injustice tellement grande et à des gens qui sont tellement plus forts que moi. Non, là, ça bascule. Non. Là, je perds presque 10 kilos. Enfin, pour moi, c'est un effondrement. Le parquet, quand même, demandera de la prison avec sursis, de la révocation, etc. Donc, ils sont allés très, très, très loin dans les demandes de sanctions. Donc, procès en correctionnel, la décision intervient quelques mois plus tard, je suis relaxé, et dans la foulée, immédiatement, le parquet fait appel de la relaxe et continue de me poursuivre. Donc, la procédure au total a duré trois années à peu près. Et j'ai à nouveau été relaxé en appel, en décembre 2021. Mais en réalité, on est parvenu au problème initial. C'est terminé, on parle plus. Il n'y a jamais eu de violence policière. Pendant toute cette procédure correctionnelle et appel, je suis muté donc dans l'intérêt du service. Et encore une fois, j'ai fait l'objet d'ostracisme de la part des fonctionnaires de police. Jusque dernièrement, un collègue qui m'a, avec un grand sourire, laissé son ceinturon avec son arme à l'intérieur, laissant supposer que je n'ai plus qu'à mettre fin à mes jours, puisque pas grand monde ne me parle ou souhaite m'avoir en tant que collègue, quoi. Donc c'était assez violent. Et financièrement, l'administration me demande aujourd'hui 13 000 euros. J'ai contesté au niveau du tribunal administratif les sommes qu'il me demande, mais l'administration ne répond absolument pas, ni aux mises en demeure, ni aux réponses qui ont été faites de l'avocate. Enfin, l'administration joue avec le temps, joue avec vos nerfs, joue avec votre argent, parce que bien évidemment tout ça, ça coûte. J'en suis à entre 20 et 25 000 euros de frais d'avocat. Donc c'est au détriment de la vie de famille. Vous faites attention à ce que vous mangez. J'ai vendu ma voiture, j'ai vendu ma moto, j'ai vendu du matériel personnel. Vous partez pas en vacances. Donc moi, mes enfants, ça fait des années, depuis que tout ça, ça a commencé, on n'est pas partis en vacances. Oui, je le referai. Parce que je pense que c'est juste ce que j'ai fait. Moi, je peux pas accepter qu'on passe à tabac des enfants qui sont menottés comme ça. Il y a des choses qui, pour moi, sont intolérables.
C'était « Policiers indociles », un reportage d'Olivia Muller réalisé par Étienne Gracianet et mixé par Marie-Claire Oumabadi. Merci à Jean-Marc, à Fabien, à Agnès Naudin qui ont écrit ensemble « Police, la loi de l'Omerta » aux éditions du Cherche Midi. Merci aussi à Zoé Coupé, l'attachée de production des Pieds sur Terre, et à Hortense Martin, notre stagiaire. You tried to say